Sur RFI, il est maintenant 13h, temps universel, 14h à Paris, 8h à Washington.
RFI Midi, Charlotte Hydrac.
RFI Midi en Haïti, dans un instant, reportage dans une école qui résiste dans une zone réputée de non-droit. On sera près du quartier de Grand Ravine à Port-au-Prince, ravagé par les gangs. 25 à 30 ans de prison au Venezuela pour ceux ou celles qui soutiennent les sanctions internationales visant le régime du président Nicolas Maduro. C'est une nouvelle loi adoptée au Parlement. On ira aussi aux États-Unis en ce week-end de Thanksgiving et les stratégies d'évitement, des sujets qui fâchent, des sujets politiques autour de la fameuse dinde. Et puis l'actualité des Outre-mer avec nos confrères de la Première. Aujourd'hui avec vous, Alex Leveillé, on ira en Martinique.
Effectivement, pour parler de bienveillance en milieu hospitalier, de lutte contre le trafic de drogue.
A tout à l'heure, Alex Leveillé. Tout de suite, le journal. Avec vous, Gilles Moreau, et avec la guerre qui continue en Syrie.
Oui, les djihadistes et leurs alliés mènent actuellement une vaste offensive dans le nord-ouest de la Syrie contre le régime de Bachar el-Assad. Ils se sont rapprochés de la grande ville d'Alep qui a été bombardée, rapporte une ONG et des médias d'État syriens. La Russie, elle, a longtemps été un acteur clé en Syrie. La question du rôle qu'elle entend et peut jouer aujourd'hui sur le terrain est encore ouverte. Explication de notre correspondante à Moscou, Anissa El-Jabri.
La télévision russe avait l'intervention du pays en Syrie comme une épopée victorieuse. Elle fait aujourd'hui un profil très bas sur ce qu'il s'y déroule ces dernières 24 heures. Le sujet reste évoqué dans la presse écrite, en tout cas, et surtout discuté parmi les correspondants militaires. Le porte-parole du Kremlin a aussi délivré ce bref commentaire.
Quant à la situation autour d'Alep, il s'agit bien entendu d'une atteinte à la souveraineté de la Syrie dans cette région. Nous demandons aux autorités syriennes de rétablir rapidement l'ordre dans cette région et de rétablir l'ordre constitutionnel.
Ces mots peuvent d'autant plus avoir des allures de lâchage officiel que la Russie est par exemple présentée sans phare dans le journal Commerçant comme, je cite, « distraite par les événements en Ukraine ». Pour autant, c'est présenté dans les médias russes comme une rumeur, mais cela ressemble plutôt à une fuite organisée. Bachar el-Assad serait à Moscou depuis hier. Le chef de l'État syrien attendrait le retour de voyage officiel de Vladimir Poutine. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Deux jours après l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah, la trêve semble tenir ce vendredi, en tout cas pas de violation signalée. Jean-Yves Le Drian, l'envoyé spécial de la France au Liban, vient d'effectuer une visite express à Beyrouth. Il a souligné l'urgence d'élire un président de la République. Cette élection au Parlement libanais doit se tenir le 9 janvier prochain. Vers la fin de la présence militaire de la France au Sahel, le Tchad, dernier pays sahélien abrité des forces françaises, annonce qu'il met fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris. Dans le même temps, le président sénégalais lui annonce que la France va devoir fermer ses bases militaires au Sénégal.
Et pas de réaction, pas de commentaire des autorités françaises pour le moment après ces annonces. C'est un nouveau visage de l'exécutif européen.
Le portugais Antonio Costa prendra dimanche prochain la tête du Conseil européen, mais la cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce matin. L'ancien Premier ministre socialiste succède au Belge Charles Michel avec une nouvelle méthode. Et également, Julien Chavannes, de meilleures relations avec Ursula von der Leyen, qui, elle, préside la Commission.
Des réunions jusqu'au bout de la nuit, un ordre du jour mal tenu, des ambitions personnelles trop visibles et une détestation publique avec Ursula von der Leyen. Le départ de Charles Michel est vécu avec soulagement dans les capitales européennes, rassuré par l'arrivée de son successeur. À 63 ans, Antonio Costa est un politique aguerri, bon négociateur et sans volonté de prendre trop la lumière. Le socialiste portugais n'aura pas de période d'essai. Les prochains conseils européens sont déjà cruciaux avec le retour de Trump, les élections sous influence en Roumanie ou en Géorgie, la guerre en Ukraine bien sûr, sans compter le trouble fait hongrois Viktor Orban. Sur la forme, Antonio Costa arrive avec des idées pour changer les réunions des 27 dirigeants de l'UE. D'après le site Politico, il souhaite par exemple que le Conseil se concentre d'abord sur les discussions stratégiques et que les sommets ne durent pas plus de 24 heures. Dans son nouveau rôle de modérateur des 27, Antonio Costa pourra peut-être s'appuyer sur sa patience, assembler des puzzles et son son passe-temps favori.
C'était Julien Chavannes. La Géorgie s'enfonce dans la crise post-électorale. Une nouvelle manifestation est prévue cet après-midi dans la capitale de Tbilissi. Hier soir et ce matin, la police anti-émeute a tiré des balles en caoutchouc et fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. Les manifestants protestent contre la décision du gouvernement accusé de dérive autoritaire pro-russe de retarder les efforts d'intégration à l'Union européenne de ce pays du Caucase.
Une vaste opération internationale contre le trafic de drogue.
Oui, 225 tonnes de cocaïne, c'est la saisie record qui a été faite lors de cette opération qui a mobilisé pas moins de 60 pays pendant 6 semaines. Cette opération a permis de découvrir une route jusqu'ici inconnue de Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, vers l'Australie. Et sur cette route, l'imagination des trafiquants, Christophe Paget, est sans limite.
En Australie, la cocaïne est achetée 3 à 6 fois plus cher qu'aux États-Unis, jusqu'à 240 000 dollars le kilo. Et pour se remplir les poches, les narcotrafiquants innovent. Ils utilisent des semi-submersibles, des embarcations très basses, à peine visibles à la surface de l'eau, mais chargé de plusieurs tonnes de cocaïne. On est bien loin des quelques dizaines de kilos dissimulés habituellement sur des cargos. Ces semi-submersibles, des navires en bois recouverts de fibres de verre, ont été modifiés pour parcourir d'une traite sans ravitaillement les plus de 15 000 km qui séparent la Colombie de l'Australie. Lors de l'opération menée par le réseau judiciaire international Orion, une de ces embarcations a été interceptée dans le Pacifique, à 3 500 km au nord-ouest des côtes colombiennes. À son bord, 5 tonnes de chlorhydrate de cocaïne à destination de l'Australie. Plus largement, pendant l'opération Orion, qui aura duré 6 semaines et impliqué 62 pays autour du monde, plus de 400 personnes ont été arrêtées et 1400 tonnes de drogue saisies, dont 225 de cocaïne. Cela empêchera des milliers de morts par overdose et les cartels ont perdu 8,5 milliards de dollars. C'est félicité le directeur de l'unité antinarcotique de la marine colombienne.
La question de la fin de vie débattue au Parlement britannique. Les députés examinent actuellement une proposition de loi autorisant l'aide à mourir pour certains malades en phase terminale. Texte qui soulève des questionnements éthiques sur un sujet de société majeure au Royaume-Uni. L'issue du vote est incertaine.
Notre-Dame de Paris dévoile sa beauté retrouvée.
Oui, la cathédrale est comme refaite à neuf. À 8 jours de sa réouverture officielle et 5 ans et demi après le terrible incendie, Emmanuel Macron a présidé ce matin devant les caméras de télévision une ultime visite de chantier, la 7e pour Emmanuel Macron, qui se targue d'avoir tenu son défi d'une réouverture dans les délais. Olivier Sherman, bonjour.
Bonjour Gilles.
Tout semble prêt, Olivier, avant la réouverture.
Ah oui, le moment était très attendu ce matin avec les images inédites de l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame. Et ce qui frappe, c'est la blancheur éclatante. Le nettoyage de la pierre calcaire de la nef, qui avait été noircie par des siècles de poussière, la pollution et la fumée de l'incendie, la restauration des vitraux qui brillent comme jamais, ce qui offre une luminosité inédite à l'édifice. Et ce nettoyage a révélé des détails auparavant invisibles, comme des décorations peintes dans les chapelles et d'autres ornements délicats. Les travaux ont aussi inclus le nettoyage et la restauration des 8000 tuyaux de l'orgue et la reconstitution minutieuse de la forêt, la charpente mythique datant du XIIIe siècle qui avait été ravagée par les flammes en 2019. Une charpente reconstruite avec du chêne français, 2000 arbres en tout. Et puis la flèche de Viollet-le-Duc qui s'est effondrée du haut de ses 93 mètres a été rebâtie à l'identique. Les travaux ont été marqués par des défis techniques considérables qui ont nécessité d'ériger d'immenses échafaudages et l'utilisation de matériaux historiques pour respecter l'intégrité architecturale de la cathédrale.
Merci Olivier Sherman. J'ajoute que le président se targue d'avoir tenu son défi. En mauvaise posture politiquement, Emmanuel Macron a beaucoup misé sur ce rendez-vous. Un mot pour finir d'économie. Avec les derniers chiffres de l'INSEE, l'Institut de la Statistique, au troisième trimestre, la croissance française a bien été de 0,4%. C'est confirmé. Le PIB, rappelle l'INSEE, a été stimulé par les Jeux Olympiques, alors que la progression du pouvoir d'achat des ménages a accéléré. Enfin, les grandes agences de notation, après les avertissements de Moody's et de Fitch, Standard & Poor's dévoile ce soir sa nouvelle évaluation de la dette souveraine de la France. Très bonne journée sur RFI, dans les médias, en compagnie de Charlotte Hydra.
Et à tout à l'heure, Gilles Moreau, bonjour. Si vous nous écoutez en Haïti, il est pile 8h08.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
L'éducation plutôt que la délinquance, l'école comme lieu de résistance à Port-au-Prince, ravagé par les gangs, certains établissements scolaires privés des quartiers défavorisés restent ouverts malgré les défis, malgré les balles qui résonnent parfois tout près. Comme dans la troisième circonscription de Port-au-Prince, près du quartier de Grand Ravine, à l'école mixte Frère Vital, c'est un reportage de Peterson Nuxama.
Des enfants en maternelle, des élèves en primaire et en secondaire, ils sont plusieurs dizaines dans la cour de l'école. À 7h45, ils sont déjà alignés pour la montée des couleurs, la levée du drapeau haïtien au son de l'hymne national. Cet établissement accueille des enfants qui habitent la zone de Grand Ravine et d'autres quartiers environnants. Chaque matin, Joël Vital, directeur de l'école, supervise tout. Ici, la discipline est de taille.
Dans l'école chrétienne,
c'est une école chrétienne. Les élèves ne doivent pas porter de tresses ni avoir les cheveux trop longs. Ils ne sont pas non plus autorisés à porter des bijoux. C'est pourquoi je reste chaque matin dans la cour de l'école pour vérifier si les enfants respectent ces règles avant de leur permettre d'accéder aux salles de classe.
Si on mélange ce gaz avec le propane, la pression...
Chemise blanche, cravate rouge, pantalon noir, Franz Mildor, professeur de chimie, enseigne avec passion depuis 17 ans. Originaire de Cité Soleil, il sait combien l'éducation est cruciale. Même s'il ne reçoit pas son salaire chaque mois, voir ses jeunes avancer est sa plus grande satisfaction.
Beaucoup de gens considèrent les quartiers défavorisés comme des zones de non-droit. Mais pour moi qui habite la première avenue, c'est un honneur de jouer ma partition. Si nous ne faisons rien pour sauver ces jeunes, il sera difficile d'avoir le pays dont nous rêvons tous.
Dans un quartier où l'État est totalement absent, cette école veut empêcher les enfants de céder aux mauvaises influences et leur offrir une éducation qui les guide vers une vie meilleure. Armanson Henry, 17 ans, habite Grand Ravine. L'adolescent veut réussir à travers l'école pour tracer un avenir différent.
Je suis un jeune qui a grandi dans ce quartier. Je reste toujours attaché à mes études car on dit souvent que le seul moyen pour les enfants de pauvres de réussir, c'est de suivre le chemin de l'école. Je suis fier d'être bientôt en terminale pour continuer à avancer car c'est le seul chemin que je vois comme étant bon pour moi.
Comme tous les autres jeunes, Armanson a aussi des rêves.
Après avoir terminé mes études classiques, j'aimerais devenir professeur. J'aime la physique et les sciences sociales. Et j'aimerais les enseigner. Mon rêve est d'intégrer l'université pour apprendre un métier qui me sera utile dans la vie.
Le nom représente l'animal, la personne ou la chose.
Cette école privée fait partie des rares encore ouvertes dans cette zone réputée de non-droit. Comme les autres, elle fait face à de sérieuses difficultés économiques. Entre les arriérés de salaire des enseignants et l'incapacité des parents à payer les frais de scolarité, les écoles fonctionnent avec les moyens du bord, selon Saint-Ilnisac.
Nous sommes dans une situation très difficile. Il est compliqué de payer les professeurs et le loyer de l'école. Certains d'entre nous accumulent jusqu'à 5 ans d'arriérés de loyer pour les locaux scolaires. Les propriétaires sont obligés de recevoir l'argent en monnaie de singe, faute de moyens. Souvent, les parents nous appellent pour nous dire qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, faute de ressources financières.
Et malgré ces difficultés économiques, ces directeurs d'école n'entendent pas abandonner leur mission, épargner les enfants du banditisme et de la délinquance juvénile qui fait rage dans la zone.
Les gens pensent que rien ne fonctionne dans ces zones. D'ailleurs, on les considère comme des zones de non-droit, des zones défavorisées, et on nous affuble de toutes sortes de noms. Mais nous sommes obligés de travailler avec les enfants pour les transformer et pour réduire le taux de délinquance juvénile. Car lorsqu'un enfant n'est pas scolarisé, le risque de voir augmenter la délinquance juvénile est bien plus élevé.
Aspirer à un avenir meilleur à travers l'éducation, un bastion d'espoir et une urgence, alors que selon l'UNICEF, le nombre d'enfants recrutés par des bandes armées a augmenté de 70% en Haïti en seulement un an. Peterson Nuxama, Port-au-Prince, RFI.
Et on poursuit toujours en Haïti avec votre revue de presse, Christophe Paget, bonjour.
Bonjour.
Direction le département du Sud, qui paye le prix du chaos qui règne à Port-au-Prince, c'est ce qu'écrit le Nouvelliste.
Oui, la population du département du Sud, particulièrement celle de la ville d'Écaille, est sévèrement affectée par une série de crises économiques engendrées par le contrôle exercé par les gangs armés sur les axes routiers à l'entrée sud de la capitale, explique le Nouvelliste. Pénurie, hausse des prix des produits alimentaires, hausse des prix des matériaux de construction, du carburant, des transports en commun. L'association des propriétaires et chauffeurs haïtiens affirme que le nombre de camions reliant les cailles à Port-au-Prince est passé de 112 à une dizaine. Les bus de 47 à 0. Restent les minibus, une vingtaine sur les 150 qui circulaient auparavant. Et dans les zones rurales, la situation est encore pire.
On part maintenant au Venezuela. Une nouvelle loi a été adoptée là-bas hier par le Parlement. Cette loi punit de 25 à 30 ans de prison le soutien aux sanctions internationales qui frappent le pays.
25 à 30 ans de prison, mais aussi 1 million de dollars d'amende, une peine de 60 ans d'inéligibilité. El Periodiquito souligne que la presse est elle aussi visée. Les médias qui diffuseraient des messages promouvant les sanctions risquent, en plus de l'amende, d'être privés de circulation ou d'antenne. Cette loi, qualifiée de progressiste par le président Nicolas Maduro, souligne Efecto Cocuyo, a été adoptée en une semaine et sans consultation publique. Il faut dire qu'elle répond en fait à un projet de loi adopté il y a à peine 10 jours par les États-Unis qui interdit au gouvernement américain de signer des contrats avec des personnes faisant des affaires avec le gouvernement de Nicolas Maduro.
Et cette nouvelle loi a rendu furieux Nicolas Maduro.
Oui, déjà parce qu'elle a reçu l'acronyme Bolivar, une offense historique contre la mémoire du libérateur, a estimé le président vénézuélien. Ensuite, rappel Ultimas Noticias, journal proche du pouvoir, parce que l'opposition vénézuélienne l'a soutenu. Si Washington serre la vis, nous la serrons encore plus fort, a asséné Nicolas Maduro, c'est-à-dire dans Tal Cual, qui rappelle qu'une enquête a été ouverte contre la chef de l'opposition, Maria Corina Machado, après son appui à cette loi adoptée aux États-Unis.
En direction maintenant le Brésil, en passant par les États-Unis, justement, l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a accordé une interview au Wall Street Journal.
On le sait, Jair Bolsonaro a interdiction de se présenter à la présidentielle jusqu'en 2030 pour avoir critiqué le système électoral brésilien avant l'élection de 2022 qu'il a perdue. Il est aussi accusé d'avoir fomenté un coup d'État. Mais dans l'interview au Wall Street Journal, il affirme qu'il va se présenter de toute façon et il espère que le président américain élu, Donald Trump, va l'y aider, peut-être en utilisant des sanctions économiques contre l'actuel président brésilien Lula. Trump est de retour et c'est le signe que nous allons revenir nous aussi, affirme l'ancien président d'extrême droite. Le Wall Street Journal rappelle que Jair Bolsonaro a été un des plus proches alliés de Donald Trump lorsque leurs deux présidences ont coïncidé entre 2019 et 2020.
Restez avec nous, Christophe Paget. Après, on vous retrouve après un détour par les États-Unis. Donald Trump, justement, dont l'ombre plane sur les fêtes de Thanksgiving. C'est ce week-end, cette traditionnelle fête de famille ou entre amis, et qui peut provoquer des tensions ou des disputes autour des débats politiques après une campagne présidentielle très, très clivante et donc l'élection de Donald Trump. Alors, certains ont des stratégies d'évitement pour ne pas aborder les sujets qui fâchent autour de la d'Inde. Reportage, Edouard Maya, Atlanta.
Victor, 25 ans, a voté pour Kamala Harris, tandis que sa famille a préféré Donald Trump et tous se réunissent ce week-end pour Thanksgiving.
Surtout avec mon père, les débats peuvent rapidement chauffer. Malgré ça, on s'aime et on ne veut pas se séparer à cause de la politique. Je comprends que ça peut être un problème dans d'autres familles, mais ce n'est pas le cas pour la mienne. On est assez ouvert à la discussion.
Ne pas parler de politique, c'est la stratégie de Céleste, 22 ans. Elle a voté démocrate et va passer cette fête avec des amis plus conservateurs.
On essaye de ne pas trop parler de politique entre nous, juste pour avoir la paix. On parle d'autre chose, on est des bons amis et on aura d'autres sujets de conversation.
Jacques, lui, rejoindra sa famille pour Noël, comme son père, le trentenaire, a voté pour Donald Trump. Mais sa mère et sa sœur sont démocrates et la famille a appris à gérer ses différences politiques.
La clé pour garder de bonnes relations avec sa famille, c'est de s'écouter, mais aussi de faire entendre ses positions. Et c'est pour ça qu'on arrive à rester soudés.
Jacques estime que les démocrates de sa famille seront cette année plus à l'écoute des arguments économiques de Donald Trump à cause de l'inflation et de la dette publique américaine. Edouard Maï, Atlanta, RFI.
RFI. La radio del mundo.
L'actualité du continent américain nous emmène aussi en Bolivie, le pays qui fait face à des incendies en série. Cette année, plus de 10 millions d'hectares de forêts et de terres agricoles sont partis en fumée. Les autorités avaient même dû déclarer l'état de catastrophe nationale en septembre dernier. Mais les feux ne sont pas que le fruit du hasard. Des lois controversées qu'on appelle les lois incendiaires encouragent indirectement l'expansion agricole aux dépens de l'Amazonie. Explication à la passe de Camille Bouju.
En Bolivie, les incendies de forêt sont presque devenus une norme saisonnière. En 10 ans, près de 41 millions d'hectares ont été victimes des incendies. Dans certaines communautés, les pertes sont colossales, comme à Cucuy, dans le parc Madidi, où Vincent Canaré, agriculteur, raconte l'ampleur des dégâts.
Les incendies de l'année dernière étaient graves. Nous avons eu des pertes de flore et de faune, des pertes de récolte, des dommages économiques pour les communautés, parce que les produits qui ont été brûlés ne peuvent pas être récupérés rapidement. Le plantain, par exemple, ou le manioc.
Le pays est donc aujourd'hui confronté à une véritable catastrophe écologique. Et ce notamment à cause d'une série de lois promulguées depuis 2013 qui permettent le défrichement sous prétexte de soutenir l'agriculture, mais sans réelle protection écologique. Résultat, ces textes ont favorisé la propagation des feux, comme l'explique la sénatrice bolivienne Cecilia Raquena.
Cette politique répond à la vision selon laquelle, pour produire plus d'aliments en Bolivie, nous devons étendre la frontière agricole, et cela inclut également les forêts. Ces lois n'étaient pas destinées à favoriser les incendies, mais en fin de compte, de manière directe ou indirecte, nous avons fini par promouvoir l'expansion des terres productibles en la facilitant, en réduisant les sanctions et en générant des incitations.
La loi 337, par exemple, en supprimant certaines amendes, a entraîné une hausse des brûlis en Amazonie qui, avec les sécheresses prolongées liées au changement climatique, deviennent souvent incontrôlables. Pour les habitants des zones concernées, c'est un non-sens. Cet outil de développement agricole contribue à la déforestation massive et à l'appauvrissement du territoire, comme en témoigne Alès Bilka Limaco, militant environnemental à Rurrenabaque.
Les ressources naturelles stratégiques sont affectées et l'une des conséquences de cette destruction concerne évidemment la santé, l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau et l'accès au travail. Cela met également fin ou en péril le patrimoine naturel et culturel du peuple bolivien. À long terme, les gens, ne trouvant pas de nourriture ou les moyens de subsistance qu'ils avaient traditionnellement, seront forcés de se déplacer vers les grandes villes.
Ce dont témoigne Dario, producteur, qui est parti de Buenaventura après avoir vu ses champs de cacao partir en fumée sous ses yeux.
Pour nous, c'est devenu très très difficile. J'ai dû changer d'endroit pour pouvoir recommencer à travailler.
Pour freiner les incendies cette année, le gouvernement a instauré une pause écologique interdisant les brûlis avec des sanctions sévères à la clé. Mais pour les militants comme Alex Bilkalimako, cette réponse est insuffisante. Ils réclament depuis 10 ans l'abrogation des lois incendiaires.
Les gouvernements d'Evo Morales, de Jeanine Agnès et le gouvernement actuel de Luis Arce n'ont pas tenu compte des demandes du peuple bolivien de modifier et dans certains cas d'annuler ces normes incendiaires. Le gouvernement doit abroger ces normes.
Face à cette urgence, certaines communautés touchées par les incendies explorent des alternatives aux pratiques traditionnelles, comme la réutilisation de terres sans brûlage. Dans la communauté de Cucubey, des ateliers sont organisés pour sensibiliser aux lois et adapter les techniques agricoles afin de préserver leurs terres.
Avec ce qui s'est passé l'année dernière, nous ne pouvons pas nous permettre que cela recommence à nouveau. Donc nous choisissons de ne plus faire de brûlis. Dans certaines communautés, cela donne déjà des résultats. Mais nous travaillons pour que cela puisse être étendu à toutes les communautés pour maintenir nos forêts.
Tiraillé entre l'impératif d'extension agricole et la préservation de l'environnement, la Bolivie laisse un avenir incertain à ses forêts. Les communautés, elles, reconstruisent dans l'espoir que les lois incendiaires soient enfin remises en question. Camille Bouju, La Paz, RFI.
La Paz, où il est presque 9h23. La musique, ça, du film Viridiana, Palme d'or du Festival de Cannes en 1961. Un film de Luis Buñuel dans lequel jouait sa muse, l'immense actrice mexicaine Sylvia Pinal. Sylvia Pinal qui vient de mourir à l'âge de 93 ans. Christophe Paget, on vous retrouve pour la suite, la fin de la revue de presse des Amériques. Toutes les unes de la presse mexicaine sont consacrées donc à Sylvia Pinal.
Oui, avec des photos à diverses étapes de sa vie. Sylvia Pinal, muse et diva éternelle pour El Universal. Sylvia Pinal, une histoire à l'intérieur de notre histoire, écrit la Roldana. Déesse en transit, titre milléniaux. Sylvia Pinal est considérée comme l'une des artistes les plus importantes du monde du spectacle mexicain, souligne Le Quotidien. Sa beauté incomparable a fait tomber plus d'un homme à ses pieds et son talent lui a permis de travailler avec des réalisateurs comme Louise Buñuel et jouer dans des films comme l'emblématique Viridiana. Sylvia Pinal, qui aura joué dans 84 films et 82 pièces de théâtre, excellait non seulement dans la comédie, mais aussi dans la conduite automobile. Et s'est même aventurée en politique. Elle a été députée et sénatrice, rappelle Excelsior. La Razón consacre de son côté un article à son portrait peint par le grand peintre Diego Rivera, qui est devenue une œuvre d'art de renommée internationale. Une œvre que l'on retrouve sur la photo en une de la Roldana. Sylvia Pinal pose devant des années plus tard. La présidente Claudia Sheinbaum a salué la mémoire de l'artiste, souligne la Razón. De nombreuses générations de Mexicains et de Mexicaines ont grandi en l'admirant. Son talent cinématographique et théâtral fait partie de la mémoire culturelle du Mexique.
Sylvia Pinal, un parcours à toute allure, on a l'impression, multicasquette, donc décédée à 93 ans.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on retrouve comme chaque jour nos confrères de La Première. En l'occurrence, on est avec vous, Alex Léveillé. Rebonjour.
Bonjour.
Le président de l'exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, est en colère.
Et oui, pour lui, la France a abandonné tout simplement les Antilles et la Guyane dans la lutte contre le trafic de drogue. Serge Letchimy.
Tout ce que je dis là, c'est dans le rapport du Sénat. La phrase est très claire. Les pays d'outre-mer, Antilles et Guyane, sont abandonnés. Et ils vont même plus loin. Ils disent très clairement que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont au cœur d'un réseau mondialisé du trafic de cocaïne, principalement entre les Amériques et l'Europe. Et que la stratégie de la France est condamnable. Parce que la stratégie de la France s'est empêchée d'aller vers l'Europe et quitter ici. Hein. Parce que quand vous voulez éviter que 400 millions d'euros de financement de drogue circulent en Martinique sous fond de paupérisation, vous mettez des moyens pour que ça ne circule pas. On y a un scanner à Dampola, on y a un scanner à l'aéroport, on fouille l'ensemble des conteneurs. Mais c'est la dernière drogue là. On va avoir peut-être le radar demain. Mais entre-temps, les 10 ans qui viennent de circuler, pas tenir radar, la France pourrait pas du tout mettre un radar pour voir les côtes, on laisse ça passer comme ça. La collectivité territoriale est obligée d'acheter un drone, l'État a acheté un, m'a obligé d'acheter un, c'est ma compétence à moi, CTM, pour acheter un drone pour surveiller les côtes.
Serge Letchimy, président de la collectivité territoriale de Martinique, était au micro d'Alain Livoury. Et on a appris Rodrigue Petitot, le président du RPRAC, de nouveau placé en garde à vue. Hier, il aurait été interpellé sur instruction du parquet. Selon son avocat, maître Max Belmar, il sera interrogé aujourd'hui. Il s'agit de la troisième interpellation de Rodrigue Petitot depuis le 1er septembre 2024. Il avait fait l'objet d'une procédure concernant son intrusion dans la résidence préfectorale le 11 novembre dernier. Et à l'issue de sa comparution immédiate, le leader du RPRAC était sorti libre du tribunal, mais sous contrôle judiciaire renforcé. Le parquet de Fort-de-France avait fait appel de la décision du tribunal. L'audience sera examinée le 5 décembre prochain. La bienveillance dans la santé, un colloque a eu lieu hier à Fort-de-France, une journée de réflexion pour sensibiliser les professionnels sur leurs pratiques. Pierre-Yves Honoré de Martinique, La Première.
Moins d'une centaine de signalements sont enregistrés au CHU cette année sur les 150 000 interventions médicales. De l'avis des spécialistes, c'est peu. Les hôpitaux de même taille de l'Hexagone enregistrent 350 à 400 signalements. Ce chiffre ne reflète pas forcément la réalité. Et à l'ARS et au CHU, on en est parfaitement conscient. Chloé Saint-Ville, du service qualité-gestion des risques au CHU.
Ça ne traduit pas tout ce qu'on entend tout autour quand on discute avec des amis, de la famille, sur son ressenti du CHU.
Parmi ces signalements de famille, de possibles cas de maltraitance. Sous le coup des habitudes, de l'empressement, parfois il arrive que des soignants négligent certains aspects. Cathy Crestelaine de Voyon, infirmière en puériculture.
On est humain, on est fatigué des fois, donc ça peut éventuellement arriver. Malencontreusement, où est la limite entre la maltraitance, la négligence? Enfin voilà, parce qu'on est quand même dans un institut où on doit faire des soins.
Dans cet éventail, on recense une vingtaine de contentieux administratifs et 4 plaintes au pénal.
Pierre-Yves Honoré de Martinique, La Première, et c'est la fin de cette édition. Merci à Bruno Dessomme pour la réalisation. Excellente fin de journée à tous et bon début de week-end.
Surtout. Merci à vous, Alex Léveillé. Très bonne fin de journée. On retrouve l'actu des Outre-mer, évidemment, lundi. Un grand merci à Vincent Biteau, ici en régie, à la rédaction en chef, Emmanuel Klotz et Dominique Bayard. À suivre tout de suite Catherine Fruchon-Toussaint pour son émission Littérature sans frontières. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.
RFI, la sélection du mois. Quiero saber si tu labio me eriza la piel.
Pégate, quiero saber. Reino. A qué colores me saben tu boca. Gabriela Lima et Vanille. Si tu suivais le soleil, juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi, l'or et le vermeil coloraient dans les ruisseaux, comme tes yeux dans les RFI Musique.
Le festival Quatre Chemins, le plus grand festival des arts vivants en Haïti, fête ses 21 ans du 25 novembre au 7 décembre à Port-au-Prince sur la thématique Non masque et mascarade pour défendre la jeunesse haïtienne. Au programme, création théâtrale et chorégraphique, projections, conférences et café poésie. Le festival Quatre Chemins du 25 novembre au 7 décembre. Plus d'informations sur festival4chemins.com en partenariat avec RFI.